Bonjour et bienvenue dans Par Intermittence, le podcast de Tali Santé, le service de prévention et santé au travail qui s'occupe notamment des intermittents et intermittentes du spectacle. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et je suis infirmier en santé au travail. Je vous propose d'aborder la santé et la prévention sous un nouvel angle, en écoutant le témoignage d'intermittents et d'intermittentes du spectacle qui nous parlent de leur parcours, leur métier et de son impact sur leur santé. Comment font-ils pour faire face aux risques professionnels et continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles? Leur passion pour leur métier permet-elle d'absorber tous les aléas? C'est ce que nous allons tenter de mettre en lumière. Installez-vous confortablement pour le 12e épisode de Par Intermittence et faites connaissance avec Steven, monteur. Bonjour Steven.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent?
Donc moi, je m'appelle Steven, je suis monteur intermittent depuis presque 10 ans. Je me suis arrivé au montage assez jeune parce que j'ai eu un grand frère qui m'a très rapidement partagé sa passion pour le cinéma. J'ai rapidement su que je voulais faire du montage, arrivé déjà au collège. Je m'intéressais au montage. Dès que j'ai eu un ordinateur, en fait, la première chose que j'ai fait, c'était du montage. Et donc, naturellement, au lycée, je me suis dirigé vers la filière littéraire parce que je savais que je pouvais faire du montage. Donc, naturellement, encore une fois, au moment du post-bac, j'ai intégré un BTS audiovisuel. Et voilà, j'ai poursuivi dans cette voie. D'abord, en tant que salarié, quand je suis arrivé à Paris. Et puis, voilà, depuis quelques années, donc presque 10 ans, je suis intermittent. Et je travaille aussi bien sur des projets documentaires, fiction et aussi, voilà, tous les petits projets à côté pour faire ses heures et gagner sa vie.
Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier ?
On a souvent tendance à voir le montage comme étant quelqu'un qui est face à l'ordinateur, qui s'installe et qui ouvre le logiciel et commence à monter et assemble des plans. C'est d'ailleurs une vision moi, que j'avais aussi pendant très longtemps et ça m'allait très bien de me dire que toute ma vie j'allais être enfermé dans une salle et sans lumière et seul avec la machine. Et concrètement, mon boulot, c'est au quotidien d'accompagner des auteurs, des autrices, parfois des producteurs, productrices ou même des entreprises, et de répondre à leur envie de films, de projets. Donc concrètement, moi je suis quotidiennement avec quelqu'un à côté de moi, et on assemble ensemble des images, du son, et on fait un film.
Donc tu n'as pas directement commencé en tant qu'intermittent, tu as commencé par le salariat juste après tes études.
Oui, j'avais très peur de l'intermittence. Je crois que j'en ai toujours un petit peu peur parce que c'est quand même une situation qui peut parfois être un peu compliquée à gérer. Donc ça me rassurait plus de trouver un emploi tranquillement dans une boîte et d'avoir un quotidien déjà assez défini. Et donc il m'a fallu, je crois, 5-6 ans d'entreprise où j'ai expérimenté et j'ai vécu le salariat, voilà. Et après coup, je me suis dit bon, qu'il y avait deux possibilités, soit je continuais dans cette voie et j'avais un chemin assez tracé où j'allais devenir certainement directeur technique à un moment donné d'un pôle vidéo, ou alors je me lançais vraiment pleinement dans le montage et j'essayais de faire ce qui était ma passion première. Donc il a fallu se confronter à l'intermittence. Et je l'ai fait de manière assez sereine et réfléchie, dans le sens où j'ai d'abord, tant que j'étais encore en salarié, j'ai commencé à faire des premières heures en intermittent. Et une fois que j'avais suffisamment de cachet, je me suis dit, bon bah, je peux me lancer et je peux avoir mes 507 heures, donc je peux quitter le salariat. Et évidemment, l'entreprise à l'époque avec laquelle je travaillais m'a aidé dans ce sens, parce que a commencé même avant la fin de mon contrat à m'embaucher aussi en intermittent. Donc ça s'est fait de manière assez simple et naturel.
T'arrives à quelle période du projet? T'arrives en amont du projet, quand le projet est déjà produit? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand est-ce que t'arrives?
Ça dépend. Dans la pensée commune, on a toujours tendance à associer le montage après. C'est vrai que pendant très longtemps, un projet se fait sans monteur, sans monteuse. Et habituellement, on essaie de garder cette personne, la faire entrer dans la boucle le plus tardivement possible pour qu'elle reste vierge de toute idée, toute image. Ça a tendance parfois à pas forcément être le cas, notamment dans le documentaire, parce que ça peut aider un auteur, une autrice, de savoir en amont avec qui il ou elle va travailler. et de pouvoir discuter en amont du projet et potentiellement des séquences pour savoir concrètement ce dont on aura besoin au montage. C'est vraiment variable et j'ai même tendance à croire que c'est de plus en plus tôt. Donc dès la phase de production, il m'arrive très souvent même d'avoir des projets qui sont en écriture, en développement, et d'avoir déjà les dossiers de production à lire. Et aussi, on a tendance aujourd'hui à demander aux réalisateurs et réalisatrices d'arriver le plus tôt possible avec des images et avec un premier montage, non pas du film, mais une première envie de film, comme un brouillon. Et donc ça m'arrive très régulièrement de faire des montages de teaser, comme ils disent, pour travailler déjà sur une ébauche de film.
En préparant l'émission, tu m'as dit que tu avais accepté beaucoup de jobs le week-end, des métiers de dérochage.
Oui, en fait, on a souvent tendance à voir le montage que par le chef monteur, la chef monteuse et la relation avec un réal ou une réale. La réalité, c'est que avant d'arriver à ce poste, il y a beaucoup de travail qui se font dans l'ombre et notamment toute l'assistana technique et l'assistana montage, donc c'est-à-dire réception des rushs, encodage des éléments, ingest, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire tout ce qu'on importe dans un logiciel de montage et la manière dont on va l'organiser pour le projet. Donc, c'est-à-dire selon le projet et selon le monteur ou la monteuse, on va vraiment adapter la session en fonction. Ce qui a été vraiment très utile pour moi parce que aujourd'hui, je suis aussi capable de me débrouiller sur un logiciel selon le projet et je peux aussi être un peu indépendant et comprendre en tout cas, dès que j'ai un souci technique, comment le régler. Pour trouver du travail, je pense que c'est en fait une sorte de boucle. C'est-à-dire que à chaque fois que je rencontre un producteur ou une productrice ou un réalisateur ou une réalisatrice avec qui je travaille, c'est comme une nouvelle relation, donc il faut qu'elle se maintienne et il faut qu'elle soit continue. Et donc le but, c'est que après coup, on puisse continuer à collaborer ensemble. Donc à chaque fois, c'est comme une sorte d'entretien d'embauche et il faut persévérer et faire que tout se passe bien pour que les projets continuent.
Et donc le lien avec la réalisatrice ou le réalisateur lorsque tu travailles avec cette personne, comment tu peux la définir, ce type de relation de travail ?
Je pense qu'avant tout, c'est une relation qui doit être de confiance, une relation qui doit se construire. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal qu'au point de départ, le montage, c'est on met deux ou trois personnes dans une pièce. Ils ne se connaissent pas forcément aussi bien dans le milieu professionnel que dans le milieu personnel. Et il faut réussir à créer de l'intime à partir d'une promiscuité. Donc c'est parfois un peu déstabilisant parce que c'est comme si on se retrouvait... Enfin, du lundi au vendredi, on est avec un collègue avec qui ça se passe bien. Et puis le lundi suivant, on va changer. Donc il faut toujours se réadapter. Il faut surtout ne pas être dans le jugement. Quel que soit le projet, quelle que soit la nature des éléments, il faut toujours essayer de trouver, ne pas juger cette matière, mais au contraire, essayer de la sublimer pour que tout l'aspect technique se retrouve effacé par l'aspect artistique. Et donc tout cela, toute cette relation, elle se crée aussi pour qu'il y ait la confiance, il faut qu'il y ait la sincérité, l'honnêteté, la transparence. C'est le seul endroit où je peux aussi me permettre, moi, d'être 100% honnête. Souvent, dans le processus d'un projet, c'est un long cheminement, on arrive à une étape où le montage, où c'est la libération, mais en même temps, ça fait parfois des mois et des années qu'un réalisateur ou une réalisatrice porte ce projet. Et donc, il est important aussi que moi, je reste honnête et franc dans le projet, aussi bien pour préserver le projet, mais aussi pour préserver les intentions du réalisateur ou de la réalisatrice. Pour que cette relation perdure, il faut vraiment qu'il y ait une horizontalité et qu'on puisse avoir un échange sans que l'un et l'autre ne blesse son ego.
C'est des choses que vous abordez lors de vos études ou c'est quelque chose que tu as appris sur le terrain ?
Alors, peut-être qu'on l'a abordé, mais à l'époque, si on l'a abordé, ça me paraissait certainement flou et pas du tout concret. Et je dirais plutôt que je l'ai appris sur le terrain, parce que ce que j'ai abordé surtout à l'école, c'était tout l'aspect technique, qui m'allait très bien, d'ailleurs, parce que je me considérais technicien et je voulais voir que la partie technique, et j'étais passionné par la technique, donc c'était formidable dans ce sens. Mais c'est vrai que quand on se retrouve en salle de montage la première fois et qu'on est face à des profils différents des nôtres ou avec des visions différentes, même une communication, parce qu'on n'a pas le même langage. Moi, j'ai un langage qui d'un coup va être technique et je suis face à un artiste, un artisan, et il faut réussir à pouvoir communiquer avec le même vocabulaire. Donc ça peut être déroutant. Donc oui, je dirais que plutôt c'est au fur et à mesure des montages et des situations que j'ai appris à trouver cet équilibre et cette manière de aussi bien d'échanger et de communiquer avec un réalisateur et une réalisatrice, mais aussi avec un producteur et une productrice, par exemple.
Est-ce que tu peux nous décrire une salle de montage?
Alors, une salle de montage, ça peut avoir toutes les formes. Souvent, c'est la demande aussi du réalisateur ou de la réalisatrice, et puis parfois, c'est la réalité d'une production, la réalité de financement. La salle de montage, il faut surtout une table et un ordinateur, quel que soit l'aspect technique de l'ordinateur, mais voilà, ça commence déjà par ça. Après, la salle de montage idéale, je vais dire que c'est avec en plus un bon fauteuil, une bonne assise, des bonnes enceintes pour l'écoute, et puis plusieurs écrans pour moi. Idéalement, c'est aussi d'avoir un canapé, notamment derrière moi ou à côté, pour que le réalisateur, la réalisatrice puisse parfois retrouver son espace, se reposer, prendre du recul ou même juste un café. Donc ça, c'est au niveau accessoire. Mais au niveau de l'espace, ça peut être aussi bien un placard à balai totalement obscur avec juste une lumière et deux chaises, ou ça peut être une très grande salle de montage idéale avec belles fenêtres qui s'ouvrent pour s'aérer. Donc habituellement, ça peut être aussi soit dans une boîte de production, dans une boîte de post-production, mais ça peut être aussi chez le réalisateur, chez la réalisatrice ou même chez moi, selon la nature du projet, la nature de production, les réalités de production, mais aussi parfois selon la volonté des personnes que j'accompagne. Souvent, je suis à côté de personnes qui ne connaissent absolument rien à l'aspect technique du montage. Et donc c'est un peu délicat parfois d'être à côté de personnes pendant des heures, des jours, où je suis face à l'ordinateur et eux me regardent et restent passifs sans avoir vraiment un réel impact sur cette partie. Et donc ce que l'on fait pour ça, parfois je crée une partie un peu ludique, c'est-à-dire ça peut être juste une balade. On va parler du montage, mais souvent, ce que je fais, c'est à partir de post-it, on fait un montage matériel, c'est-à-dire physique, qui se manifeste et qui se construit, par exemple, sur un mur. Admettons, le post-it bleu, ça va être pour parler des personnages, le post-it jaune, ça va être pour des séquences, et le post-it vert, ça va être pour l'enjeu dramatique. Et petit à petit, en fait, on va construire le montage sur le mur, sur une table, et au fur et à mesure, on va avoir cette trace physique qui va se manifester devant nous, et on va petit à petit ensuite le transcrire nos post-it sur la table de montage, enfin sur la timeline. Ça permet en fait de visualiser pour quelqu'un qui ne visualise pas ce qui se passe avec ses rushs. Il visualise en tout cas maintenant les images, comment elles vont être insérées dans le film et comment elles vont être assemblées les unes à la suite des autres. Et ça permet surtout de voir en fait le film se construire au fur et à mesure physiquement, et d'avoir une trace comme une sorte de langage commun tout au long du processus.
Et du coup, c'est pas frustrant justement de pas avoir de collègues, on va dire des personnes qui font le même métier que toi au quotidien, avec qui tu pourrais échanger sur un projet?
Alors, j'ai des collègues d'une certaine manière, parce qu'à chaque étape du film, il y a aussi bien l'étape de production que donc de tournage, mais aussi après coup. C'est-à-dire qu'il y a souvent, une fois que le montage est terminé, moi je l'envoie aux collègues étalonneurs-étalonneuses ou aux mixeurs-mixeuses. Mais ce qui peut être frustrant dans ce métier de monteur, tout ce qui se passe dans la salle de montage est un peu difficile à se matérialiser par la parole ou par la pensée une fois qu'on est sorti. Et donc il faut peut-être aussi parfois réussir à trouver d'autres personnes avec qui pouvoir communiquer et avec qui pouvoir échanger sur des sujets très concrets, à savoir pourquoi j'ai pas réussi à monter ma séquence aujourd'hui, ou pourquoi je me perds avec toute cette matière, et se rendre compte que, enfin, en parlant avec notamment d'autres monteurs, d'autres monteuses, on se rend compte que c'est des problématiques auxquelles tout le monde se retrouve confronté, Et donc, c'est important de trouver un espace aussi de discussion et d'échange de ce point de vue-là, donc humain parfois, mais aussi du point de vue technique, à savoir pourquoi sur ce nouveau logiciel, enfin sur ce logiciel, je ne sais plus, il y a une mise à jour, je ne sais plus monter comme avant, ou je ne retrouve plus mes marques. Bah, d'avoir un groupe avec qui discuter et échanger, c'est nécessaire.
Et t'arrives à couper avec le travail ou tu penses qu'au travail tout le temps?
Alors, je pense pas au travail tout le temps. Le montage, moi, c'était ma passion. Donc, pendant très longtemps, j'ai pas su comment gérer cette passion, aussi bien personnelle que professionnelle. Donc oui, le montage, c'était toute ma vie, tout mon quotidien, et ça l'est toujours, mais il faut savoir trouver en fait des moments pour aussi décrocher et faire autre chose, parce que mon quotidien, c'est quand même relativement d'être assis au moins 8 heures devant un ordinateur, et que moi, si j'ai pas de règles, je reste face à mon écran pendant 8 heures, et j'ai aucun problème avec ça, je me laisse embarquer dans le vortex néanmoins. Ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que moi qui ne suis à la base pas du tout sportif, je me suis mis au sport grâce au montage. Parce que j'ai compris qu'il fallait que je ventile, que je libère mon cerveau de temps en temps, que j'arrête de dérocher ou de visionner dans ma tête pour pouvoir aussi avoir de l'espace supplémentaire. Une fois qu'on accumule tellement d'images, tellement de sons, qu'il faut aussi, une fois que le projet est terminé, savoir s'en décharger. Et donc moi je me suis mis à faire vraiment beaucoup de vélo. Enfin, d'ailleurs, parfois des moments très importants dans un projet, je les ai solutionnés aussi bien la nuit en dormant qu'en faisant du vélo le matin. Parce que ça m'aérait l'esprit et que le matin, du coup, quand j'arrive face à un projet, je me dis « Ah, c'est bon, j'ai peut-être réussi à solutionner quelque chose, j'ai réussi à trouver un espace voilà, pour revoir la séquence, par exemple, sur laquelle je suis de manière différente. » Et je fais aussi beaucoup de randonnées. Quand je me suis mis à faire la marche, je me disais « Je vais avoir les meilleures idées et les meilleures réflexions. » Et en fait, je me suis rendu compte que c'est le meilleur moyen pour moi, surtout de ne plus penser et de juste marcher et de contempler. Et donc, c'est un moyen aussi, encore une fois, je pense, de réactualiser ma mémoire vive et de me recharger. Voilà.
Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton métier ?
Je dirais que je suis arrivé au montage parce que je m'intéressais au film et notamment, je m'intéressais à l'aspect technique des films, à savoir comment ils étaient faits. Ensuite, je m'y suis intéressé parce que j'ai compris qu'il y avait toute une partie technique avec la machine, je trouvais un certain plaisir à comprendre qu'il y avait des fichiers avec des codecs, avec des bandes passantes, des débits de vidéos. Voilà, c'était assez ludique et je trouvais que c'était assez passionnant à comprendre. Et aujourd'hui, je dirais que ce qui me plaît le plus, c'est tout l'aspect psychologique, humain et sociologique. Ouais, tous les échanges qu'on peut avoir. Moi, enfin, je prends beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à travailler avec que d'être seul. Évidemment que le montage, il y a aussi besoin d'un moment où on est complètement isolé et seul face à la matière, mais ce que je préfère le plus, c'est tous ces échanges qu'on peut avoir avec un réal ou une réale, et tous ces moments où il y a cette complicité qui se crée, et le moment où je peux aussi montrer mon travail et d'avoir un retour positif ou négatif, mais en tout cas d'avoir un retour qui provoque une émotion auprès de quelqu'un d'autre.
Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui débute dans ce métier ?
Le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas s'isoler dans la salle de montage uniquement tout seul face à son écran, mais d'en sortir en fait le plus souvent possible. Pour faire du montage, il faut continuer à aller très souvent au cinéma, à faire une veille sur tous les films qui sortent et à continuer à construire sa cinéphilie, à voir aussi bien des documentaires que des fictions, voir des films qui viennent de sortir, mais comme des grands classiques qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir. Il faut aussi faire des rencontres, et pour cela, il faut à nouveau sortir de la salle et aller à des festivals, aller à des tables rondes, continuer à réfléchir aussi sur l'évolution du métier, aussi bien d'un point de vue technique et artistique, et puis trouver des pairs avec qui échanger, des pairs donc des monteurs, des monteuses, mais aussi d'autres personnes avec qui on va potentiellement travailler et pouvoir échanger. Pour comprendre aussi, ce qui me semble important, c'est aussi de comprendre toute la chaîne de post-production. Et donc, pour être un bon monteur, une bonne monteuse, il faut aussi pouvoir comprendre ce qui se passe avant le montage et après le montage.
C'était le 12e épisode de Par Intermittence, un podcast de Tali Santé, le service de prévention et santé au travail qui s'occupe notamment des intermittents et intermittentes du spectacle. Merci beaucoup à Steven pour son témoignage et à la lettre du musicien qui nous accueille dans son studio. Nous nous retrouvons très prochainement pour un prochain épisode. D'ici là, rendez-vous sur talisanté.org et les réseaux sociaux pour vous informer sur la prévention et la santé au travail.